Aujourd'hui, nous sommes le 21 juin. Habituellement, c'est le jour du solstice d'été, mais exceptionnellement, comme vous le savez, cette année, le phénomène astronomique a eu lieu plutôt hier à 23h43. Néanmoins, le 21 juin est le jour qui marque le début de notre été. Il est également le jour de la plus grande visibilité du soleil, pendant presque 17 heures aujourd'hui, alors qu'il est le plus court, évidemment, chez nos amis du Sud. Et nous pensons à nos amis du Grand Nord, eux, qui verront le soleil toute la journée. C'est aussi aujourd'hui que le soleil passe à la verticale du tropique du Cancer. Et il traverse, ou il a traversé l'Inde, d'ailleurs, il y a quelque temps, l'Arabie Saoudite dans la journée, puis le Mexique en exactement leur milieu. Et chez nous, il sera le plus haut dans le ciel, vers 14 heures. En plus de ce solstice, et au moment même où je vous parle, une éclipse a lieu avec la Lune qui s'intercale entre la Terre et le Soleil. Malheureusement, il ne sert à rien de sortir pour aller la regarder, parce que d'abord, il y a des nuages, et ensuite, ça n'est pas visible depuis nos contrées. Mais surtout, c'est aujourd'hui que nous fêtons la musique, comme depuis d'ailleurs 1982. Car c'est le jour le plus long de l'année, comme je viens de le dire précédemment. Mais aussi, selon le point de vue, c'est la nuit la plus courte pour ceux qui vont festoyer ce soir. Car c'est aussi le sacre de la nature en ce début d'été et qui rappelle notamment les fêtes païennes dédiées aux moissons autrefois. C'est pourquoi le culte de ce jour sera en partie réalisé en musique autour du psaume 137, sous les doigts de Frédéric. En plus des explications que nous aurons, vous pouvez trouver sur la feuille le déroulé du culte avec les quelques notes que nous entendrons et qui nous accompagneront durant cette heure. Alors soyez donc tous les bienvenus, d'où que vous veniez, quel que soit votre quartier, votre langue ou quelles que soient vos croyances. Soyez bienvenus dans ce foyer de lumière où la lumière va nous baigner. Bon, aujourd'hui, assez peu, mais on peut la deviner au-dessus. En ce jour de ballet céleste que je vous ai décrit juste avant, et au beau milieu de l'art musical qui va résonner entre ces murs. Soyez les bienvenus pour partager ces dons divins, ciel, lumière et musique, et pour recevoir la grâce qui nous est donnée. Je vous invite donc maintenant à vous lever pour chanter donc sur le psaume 137. C'est la partie où il y a les strophes. Nous chanterons les trois premières strophes avec les notes qui sont juste au-dessus.
Thank you. Bonjour à tous. Alors, après avoir chanté le psaume, je vous propose de le lire dans sa version de la seconde, de la Nouvelle Bible Second, donc le psaume 137. Près des fleuves de Babylone, là-bas, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos lyres. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants, nos bourreaux de la joie. Chantez-nous des chants de Sion. Comment chanterions-nous le chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens pas de toi, si je ne mets pas Jérusalem au-dessus de toute autre joie. Seigneur, souviens-toi des Édomites qui, au jour de Jérusalem, disaient « Rasez, rasez jusqu'à ses fondations ». Babylone la belle, toi qui vas être ravagée, heureux qui te paiera de retour pour le mal que tu nous as fait. Heureux qui saisira tes enfants et les écrasera contre le roc. Après cette lecture, je vais vous proposer quelques explications sur le psaume. Moi, évidemment, je n'ai pas du tout de formation de théologien et je n'ai pas l'habitude de faire l'exercice. J'ai déjà lu plusieurs fois, mais c'est la première fois que je vais vous proposer quelques explications. Et bien sûr, ce sont des suggestions qui me viennent de Dominique directement et aussi d'un livre qu'elle a bien voulu me prêter, que beaucoup d'entre vous connaissent. Hein, c'est l'auteur Thomas Romer. Sur les psaumes interdits. Alors, c'est intéressant parce que, vous voyez, on vient de chanter le psaume, mais on s'est arrêté à la fin. On n'a pas chanté la conclusion, avec justement l'appel à l'éradication des enfants de Babylone. Et c'est un petit peu le fil conducteur de mes explications. Parce que oui, c'est un psaume qui est choquant. Parce que généralement, on tronque justement cette harangue conclusive. C'est choquant pour les chrétiens, donc ça suscite un malaise. C'est la même chose pour les juifs qui ne lisent pas non plus cette fin. Bon, hormis apparemment les orthodoxes ashkénazes qui en font une récitation quotidienne. Mais alors, comment est-ce qu'on peut comprendre cette violence finale du psaume? Quelle est la cohérence du message biblique, hein, et de sa compilation de textes supposée inspirée? Et puis évidemment, ça nous ouvre un petit peu hein, sur la violence dans la Bible. Bon, on peut penser à d'autres passages, le plus célèbre étant évidemment le jour de colère, le diacyré, ou alors d'autres prophéties. Une première clé d'interprétation, donc là encore une fois, je retranscris hein, ce qu'a bien voulu m'expliquer Dominique, c'est il faut bien comprendre que c'est un psaume de l'exil, et c'est comment est-ce qu'on reste le peuple de Dieu face à ce choc historique et politique. Donc c'est une interprétation un peu plus, paraît-il, historico-critique. Alors, le contexte, c'est après la destruction de Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ, qui conduit à la déportation à Babylone. D'après Thomas Romer, ce texte est vraisemblablement écrit à l'époque suivante, l'époque perse, et donc au plus tôt au 5e siècle. On y voit la naissance du judaïsme ancien, un judaïsme de la diaspora, qui ne sera plus au centre du temple jusqu'à l'époque de Jésus. Et c'est un peu la découverte et l'émergence de l'universalisme du Dieu d'Israël. On voit ce mouvement plus large dans les psaumes, entre le premier et le dernier. Le premier psaume, « Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants » et récite sa Torah jour et nuit. La Torah, ça renvoie évidemment au peuple juif. On a aussi le thème des méchants qu'on retrouve dans notre psaume. Les méchants, est-ce que ça veut dire que Dieu est impuissant face aux méchants? Et donc ces thèmes qui sont brodés et qu'on retrouve déclinés dans la plupart des psaumes. Le dernier, que tout ce qui respire loue le Seigneur, Alléluia. Évidemment, dans ce dernier psaume, tout ce qui respire, on est dans l'ordre universel. Donc est-ce que c'est un psaume inédit? Pas forcément. Mais en tout cas, sa caractéristique, c'est d'être vraiment un psaume de l'émotion, pas de la réflexion. C'est le psaume d'un peuple déporté. Et donc, comment rester fidèle à la foi en Yahvé alors que son peuple a été vaincu? Autrement dit, est-ce que Dieu, le Dieu du peuple juif, est moins puissant que le Dieu des Babyloniens, dans une perspective antique, évidemment, ça se comprend. Dans les versets 5 et 6, si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite oublie, que ma langue s'attache à mon palais, etc., il y a le refus de s'intégrer, de s'assimiler à l'Empire. Le refus du verset 3 est net, chanté pour les Babyloniens, qui serait donc une pratique courante à l'époque, qu'on demandait au peuple vaincu, l'invitation à se normaliser, s'unir par le chant, à se fondre, à former une harmonie quelque part, c'est une demande jugée insupportable. C'est une forme de résistance religieuse et culturelle. Et évidemment, quel est le point d'appui dans notre psaume ? C'est ce souvenir de Jérusalem. Pour le peuple exilé, c'est aimer Jérusalem dans sa pureté, qui devient tout un symbole de ce que l'on est. Alors, d'après Romer, ce psaume est écrit après le retour. Les exilés n'ont jamais oublié Jérusalem. Pourquoi est-ce que je précise ça ? Parce que ça peut faire écho à d'autres livres qu'on trouve dans la Bible, par exemple les livres de Ruth ou de Jérémie. Dans les versets 7 et 9, vous avez l'expression de la colère. Souviens-toi des Édomites, Babylone la belle, tu vas être ravagé, heureux qui te paiera, etc. Alors, petite précision historique, les Édomites donc sont alliés aux Babyloniens, ils en ont profité pour s'agrandir sur le territoire du peuple juif. Voilà, moi aussi. Et au verset 9, lorsqu'on souhaite que Babylone soit ravagée et que les enfants soient écrasés contre le roc, c'est une pratique d'abord courante dans l'Antiquité, mais c'est sûr qui exprime le souhait d'arrêter la prolifération, qu'il n'y ait pas de descendance. On voit aussi qu'il y a une forme de futur qui est employée. Alors évidemment, je ne connais pas l'hébreu et l'hébreu ancien, mais j'imagine qu'il y a une tournure qui traduit cette même idée, l'idée de projection. On bénit d'avance le vengeur dans un mouvement futur pour nous et après, quelque part. Ça permet peut-être de différer, de passer à autre chose. Aussi, on note que ce n'est pas Dieu qui est désigné. C'est heureux celui qui, contrairement au psaume 136, où c'est bien Dieu qui a frappé l'Égypte dans ses aînés. Alors, on retrouve d'autres échos dans la Bible, de ne pas se venger soi-même, car la colère est à Dieu. Dans les Romains, l'Épître aux Romains, vous trouvez « Ne vous vengez pas vous-même, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. » La vengeance est à Dieu. Est-ce que Dieu est vengeur ? On a d'autres passages qui disent l'inverse. Dieu est au-delà de la colère. Dans Osée, on trouve « Je ne reviendrai pas détruire, car je suis Dieu, et non pas un homme. Je ne viendrai pas avec fureur. » Alors, je vous laisse vous-même interpréter, parce que je n'en ai pas la capacité. Mais ce que je pense, c'est que le prier, c'est peut-être quelque part renoncer à la violence. Ça permet de sortir d'une obsession, l'obsession des vaincus, l'obsession des exilés. Et cette interprétation, qui est une forme de libération, nous conduit vers une forme de symbolisation quelque part. Et ça, c'est une deuxième approche qui est traditionnelle de ce psaume, qui est beaucoup moins répandue que cette approche historique, mais qui dit que ce psaume permet également de résister et de se relever. C'est une approche ontologique qui fait écho à d'autres textes bibliques qui permettent aussi de se constituer, de se reconstituer, de symboliser ce qui nous arrive. Cette interprétation veut que l'ennemi est intérieur. Donc l'ennemi ne serait pas vraiment les Babyloniens de l'époque, mais c'est le mal en moi, c'est l'ennemi intérieur. Donc, pour info, Origène déjà, donc c'est un père de l'Église au IIIe siècle, proposait cette interprétation. Écraser le germe qui germe en nous, voilà, c'est une forme peut-être plus individuelle, plus symbolique, et une autre approche, un peu plus psychologique, linguistique, ontologique, comme on voudra. Et j'en arrive à ma conclusion, parce que je ne voudrais pas être trop long non plus. Ce psaume de la fidélité Comment expliquer son succès quelque part ? Babylone, dans ce texte, c'est évidemment un autre nom pour les autres exils du peuple juif. On peut faire un parallèle avec l'Apocalypse. On sait bien que Babylone, c'est l'Empire romain. La diaspora qui a si souvent été la forme de vécu du peuple juif. Babylone, c'est la capitale du monde, le capital de la douleur, de l'oppression. Et peut-être que ce psaume permet aussi d'aller au-delà de la consolation ou du ressentiment. Face au choc de la violence, de cette destruction de ce que je suis, il reste la fondation de ce que je suis, le centre, Jérusalem. Cette violence dans l'expression, ça peut peut-être aussi traduire la difficulté de symboliser. Et pour cette résistance dans la fidélité, j'ai une cheville, Jérusalem. Et je laisse la conclusion à Dominique, qui m'a parlé d'un psaume de la fidélité et de la résistance dans la fidélité. Ce qui explique probablement qu'il ait été repris par d'autres groupes et qui explique aussi son succès en situation de persécution. On peut songer aux protestants en France pendant les guerres de religion, mais également les esclaves en Amérique, avec différents chants. Vous avez dû reconnaître tout à l'heure Frédéric qui jouait un petit air de Boniem. Voilà, c'est quelque chose qui peut expliquer également le succès de ce psaume, malgré son caractère un peu dur. Voilà. Et maintenant, je laisse la place justement à Frédéric.
Avant de vous jouer la pièce que j'ai prévue, je vous propose d'écouter ou chanter le choral qui sert de base à cette pièce. C'est le choral que vous avez sur la feuille, le choral allemand. J'ai écrit le texte en français pour information, mais je n'ai pas pu faire correspondre la traduction française aux notes, car le texte allemand est beaucoup plus synthétique, donc il faut le chantonner ou le chanter en allemand. Mais c'est surtout pour avoir la mélodie dans l'oreille. Je vais donc vous jouer une pièce de Reinken, qui était organiste à Hambourg au XVIIe siècle. Les organistes allemands de cette époque avaient l'habitude d'improviser sur le cantique, soit pour préparer l'assemblée au chant et aux lectures, soit pour simplement la récréation de l'esprit. Le but de ces improvisations était de refléter le texte du chant dans la musique. Cette fantaisie, qui est une improvisation écrite, est donc un poème ou une peinture musicale sur les premiers versets du psaume 137. Le compositeur a utilisé uniquement le texte que vous avez au-dessous des notes. Comme la pièce est assez longue, le temps d'une prédication, 20 minutes à peu près, je vous propose quelques explications pour que vous puissiez vous repérer. le compositeur a découpé le cantique en toutes petites sections. Pour la première section, il va traiter les mots « An Wasser flüssen Babylon »,« au cours d'eau de Babylone ». On entend la mélodie. Qui sera jouée à la main gauche très lentement. Et il va commenter ces notes et ces mots en y ajoutant une mélodie constituée d'un saut vers le bas et d'un saut vers le haut. Vers le bas, cela exprime la profondeur du tourment. Vers le haut, l'espérance qu'il y a dans chaque situation difficile. C'est un peu le même motif que la mélodie du cantique que vous connaissez très bien, des profondeurs de mon tourment. La profondeur du tourment, c'est donc cet intervalle. Et voici le motif de Reinken. C'est un peu similaire. Un saut vers le bas, et un saut vers le haut, et un mouvement un peu aquatique. Plus loin. Parfois à deux voix. Parfois dans le saut vers le bas, il remplit l'intervalle par quelques notes qui coulent, comme de l'eau ou comme des larmes. C'est-à-dire au lieu de faire, il va faire. Donc on a plusieurs fois en parallèle les notes du cantique et son commentaire musical en même temps. Donc cette main va jouer le cantique. Le cantique peut être joué à la pédale. Et les commentaires aux mains. Dans cette première section, un très beau mouvement qui peut exprimer le mouvement du fleuve, la mélancolie, les souvenirs, la prière. Deuxième section, nous étions assis, d'Asassen Vir. Ce sont les notes du cantique et le commentaire, un motif qui illustre le fait de s'asseoir. C'est tout simple, c'est un peu comme de la bande dessinée. Donc les deux ensemble, le cantique plus le commentaire. Schwertzen, douleur, arrive plus loin, il est illustré par un motif douloureux. Le chromatisme, ça exprime la douleur. Troisième section, Wenn wir gedachten, quand nous nous souvenions, nous pleurions dans la douleur. Les notes de la mélodie. Reinken les fait entrer en canon, donnant une impression de souvenirs nombreux. Etc. Plus loin encore, une très belle montée qui met longtemps à atteindre le haut du clavier, puis qui redescend jusque dans le grave. Ce passage peut illustrer la protestation ou la résistance, puis en redescendant la résignation, les larmes, un fleuve de souvenirs. La résistance. Pardon. Et la redescente. Les larmes. Thank you. texte parle aussi de pleurer du fond du cœur. Et on a les larmes du fond du cœur, un mélange de larmes qui coulent dans un rythme de battement de cœur. Nous suspendions. Wir hingen auf. Mit schwerem Mut. On va chercher des notes dans l'aigu, tout simplement pour accrocher les instruments aux arbres, comme ceci, ou comme ceci. Donc le choral plus l'accrochage. Harfen, les harpes, donc la mélodie du choral, il y ajoute un motif de harpe, c'est juste quelques trois notes égrenées à la harpe, en même temps que la mélodie du choral. Lorsque le texte parle d'orgue, on a un style majestueux avec un rythme d'ouverture d'opéra à la française dans le style de Lully, et le mot orgue est illuminé par un tri, c'est-à-dire un tremblement sur la note. C'est un clin d'œil aux organistes et aussi une manière pour Reinken de se projeter dans le psaume en tant qu'organiste. Le cantique a été composé par un organiste à Strasbourg au XVIe siècle et il a ajouté l'orgue qui n'est pas dans le psaume. On imagine difficilement suspendre un orgue à un arbre, mais ça tenait à cœur aux organistes d'être impliqués dans l'histoire. Et d'ailleurs, une mesure avant l'arrivée du passage qui parle d'orgue, on a une énorme montée vers l'aigu qui montre l'énorme effort pour soulever un orgue et le suspendre. C'est une forme d'humour, je pense. Et l'orgue arrive ici. Le tri est là-dessus. On accroche donc les instruments aux arbres. An ihre Baum. Donc cette mélodie va être agrémentée de tremblements qui illustrent le bruissement des feuillages dans les saules. On a tout un paysage évoqué. C'est ça, les légères feuilles de débranchage. In Hiram Land, pardon pour l'accent, dans leur pays, Reinken transforme la mélodie en un mouvement contraire qui exprime la contradiction de l'exil. Deux gammes parallèles qui descendent. Deux gammes parallèles qui montent. Donc apparemment, on ne va pas dans le bon sens puisque les deux gammes se croisent. L'organiste est également dans une position inconfortable, les mains croisées, les pieds écartés, ce qui ajoute à l'illustration d'inconfort de l'exil. Da müssten wir, là nous devions subir de nombreux outrages et honte. Da müssten wir. Cette mélodie est répétée sur une basse qui descend cran par cran, comme si on s'enfonçait dans la dépression. Thank you. Place en signe d'outrage et d'humiliation un motif de croix. Ces quatre notes forment un motif de croix très utilisé à cette époque, surtout par Bach. Ça veut dire qu'on a une, deux, trois, quatre, et sur le papier, quand on les relit, ça forme une croix. Il y en a plusieurs dans la pièce. Après jour, la dernière section du cantique. Cette mélodie est tornée, il y rajoute plein de notes. Au lieu de faire, il fait. Il garde juste la structure, mais il rajoute quatre notes au lieu d'une. Et il en fait un canon. Et ce canon est décliné plusieurs fois dans plein de tonalités pour symboliser les longs jours d'exil. Chaque canon est une journée douloureuse. Voilà, et tous les motifs utilisés pour chaque action sont également présents discrètement dans toute la pièce pour qu'on ait tous les thèmes du psaume en même temps. Peut-être je m'arrête là parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais la musique parle d'elle-même et il faut aussi laisser votre imagination travailler. Donc je vous joue cette pièce.
D'abord, un grand merci à Frédéric pour cette belle interprétation de ce choral très figuratif. Et merci à lui pour tout le travail musicologique qu'il a accompli lui-même pour comprendre vraiment cette pièce. Et maintenant, quelques annonces. Mardi 23 à 19h30, réunion des groupes des jeunes adultes. Mercredi 24, ciné-club à 20h. Jeudi 25, réunion de l'entraide avec les enseignants des cours de français langue étrangère pour un bilan de cette année très perturbée et la préparation de la prochaine année. Vendredi 26 à 19h30, Théo et Psycho, fin de la lecture du livre de Marie Balmary, Le sacrifice interdit. Dimanche 28, culte à 10h30. Dimanche 5 juillet, le culte sera présidé par le pasteur James Woody. Et au mois de juillet, donc notre pasteur Dominique Hernandez assurera un partage biblique et théologique le mardi de 14h à 16h et le jeudi de 20h à 22h. Il y aura une pause spirituelle le mercredi de 19h30 à 20h30 et les cultes seront tous assurés jusqu'à fin juillet. Dominique nous fait part du décès subit de Mireille Aubanel, qui était membre du foyer de l'âme et que certains devaient connaître. Donc nous pensons à ses enfants. Elle sera inhumée en province. Et d'autre part, parmi nous, la fille de Nicole Reville. Nicole Reville étant décédée l'année passée, et donc c'est pour avoir une pensée pour toute la famille. Je voulais vous dire aussi que d'habitude, depuis 1997, il y a un concert en fin d'après-midi pour la fête de la musique et malheureusement cette année nous n'avons pas été autorisés à le faire. Une annonce aussi pour certains, je ne sais pas si vous connaissez la Fédération Musique et Chant de la Réforme. C'est une association dont je fais partie et elle réunit des musiciens, des organistes, des chefs de chœur, des compositeurs. Et donc, elle essaye de conserver notre patrimoine protestant, luthéro-réformé, et de l'enrichir d'œuvres nouvelles. Donc, voilà, ça c'est le dernier bulletin de 2019, il y en a deux par an. Je le laisse là-bas, il y en a un aussi de cette année. Si vous êtes intéressé, vous pouvez être simplement adhérent, donc c'est 15€ pour être adhérent. Et si vous voulez recevoir deux bulletins par an, donc il y en a un au premier trimestre et un au dernier trimestre, voilà, c'est 35€, mais vous pouvez consulter et emprunter, si vous voulez, donc les documents que je laisse et les rapporter pour les autres. Et maintenant, c'est le moment de l'offrande. Se rappeler que Dieu aime... Ah, bon, bah, t'as d'autres annonces. OK. Attends, je laisse ça là.
Merci. Bonjour, est-ce qu'on m'entend malgré le masque ? Oui, bon, ça évite de postillonner sur le micro. Les cinémas reprennent demain, j'en suis très triste, parce que sinon le cinéma du Foyer de l'Âme aurait été le seul ouvert dans Paris mercredi prochain, et on aurait refusé du monde, forcément. Donc, puisqu'on peut rouvrir, je vous propose un hommage à Kirk Douglas avec le film La rivière de nos amours, qui est le premier film qu'il ait produit. Parce qu'il a toujours tenu à contrôler sa carrière. Après, il sera même metteur en scène. Alors, c'est encore modeste. Après, il produira Spartacus ou Les Vikings. Et c'est un beau western, antiraciste, écologiste, d'une façon un peu moderne pour l'époque, 57. Et ne le dites pas, ne l'ébruitez pas, mais c'est un film très, très, très légèrement érotique. C'est de 57, hein. D'où le titre « La rivière de nos amours ». Voilà, c'est une invention du distributeur français qui devait être sentimental, puisque le titre anglais, c'est « The Indian Fighter », celui qui combat les Indiens. Puisque j'en suis là, donc j'ai apporté quelques feuillets pour, si vous souhaitez adhérer à l'association culturelle et soutenir son action, qu'on va essayer de... détendre un peu, puisqu'on est, pour l'instant, on n'a que le ciné-club, et puis alors, avec le confinement, on n'a rien pu faire de plus. Hein. La cotisation annuelle, c'est de 10 euros. C'est faisable. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que c'est l'essentiel. Oui, bien sûr.
Merci. C'est bon, là? Je ne suis pas obligée de m'approcher beaucoup plus. Vous m'entendez? Alors d'abord, je suis désolée, je ne voulais pas faire cette annonce, mais je trouve qu'elle est terriblement en écho avec le psaume. Vous savez qu'hier, c'était l'Assemblée générale de la CIMAD, et qu'il y a un petit mouvement initié par la CIMAD depuis hier, aujourd'hui. Vous pouvez vous faire photographier avec des petites pancartes ou des petites banderoles ou des vidéos, si vous avez des compétences dans ce domaine, pour favoriser la régularisation des étrangers qui sont arrivés sur le sol en France. Donc le thème, c'est liberté, égalité, régulariser, mais vous pouvez inventer des phrases autour de ce thème. Voilà, merci. Et d'autre part, je suis désolée, mais je partage mon émotion tout de suite à l'annonce du décès de Mireille Aubanel, que je connaissais très bien, qui n'était pas une amie proche, mais qui a fait partie... du bureau, du conseil d'administration du CASP. Et voilà, je vais contacter sa femme. Je connaissais bien sa belle famille qui est apparentée. Voilà, merci beaucoup de votre attention.
Un tout petit mot sur la pièce que je vais vous jouer maintenant, qui sera beaucoup plus courte. En 1700, Jean-Sébastien Bach est choriste dans une église à Lunebourg et il est ami avec l'organiste de l'église qui s'appelle Georg Böhm. Celui-ci possède une partition de la pièce de Reinken que j'ai jouée et Bach la recopie. C'est la copie de Bach que j'ai utilisée, une édition de la copie de Bach. Et en 1720, Bach fait un voyage à Hambourg et rencontre Reinken. Il improvise devant Reinken, qui a 97 ans, pendant 30 minutes, sur le même choral, Anwasserflüssen Babylon. Et Reinken lui aurait dit « Je croyais que l'art de l'improvisation était mort, mais je vois qu'il revit en vous. » Donc Bach a aussi écrit un morceau sur Anwasserflüssen Babylon, et on en a retrouvé plusieurs copies, car il l'a retravaillé à plusieurs époques, parce que ça devait être un morceau important pour lui, et probablement un hommage à Reinken. La version que je vais vous jouer maintenant a une particularité, elle est à double pédale, c'est-à-dire qu'il y a deux mélodies jouées avec les pieds. Et c'est assez rare dans les pièces d'orgue, et je pense que comme dans un passage de la pièce de Reinken, il met l'organisme dans une situation difficile pour symboliser l'exil ou la captivité. J'en suis pas sûr, mais ça m'est venu à l'esprit parce que j'ai l'impression de jouer avec deux boulets aux pieds. Thank you.
nous nous unissons dans la prière d'intercession. Notre Dieu, en pensant au psaume 137, aux Hébreux exilés, nous te prions particulièrement aujourd'hui pour ceux qui souffrent d'avoir été exilés. Nous te prions pour ceux qui ont quitté leur pays pour raison de guerre, raison de persécution, raison économique. Qu'ils trouvent le lieu où ils seront accueillis et pourront reprendre une vie leur permettant de s'épanouir et, s'ils le souhaitent, garder leur culture. Nous te prions pour ceux qui sont à l'hôpital, qu'ils soient entourés pour être aidés à supporter la souffrance physique, l'anxiété, l'isolement. Nous te prions pour ceux qui sont en prison, exilés de la vie familiale et sociale, qu'on leur donne tous les moyens pour se préparer à retrouver, à la sortie, la liberté de vivre pleinement. Nous te prions pour les discriminés par la couleur, l'ethnie, leurs préférences sexuelles, qu'ils soient respectés comme êtres humains, comme frères. Nous te prions pour ceux qui ont du mal à supporter le confinement. Nous pensons en particulier aux anciens en maison de retraite. Qu'on soit à l'écoute de leur mal-être et qu'on les aide à retrouver la joie de vivre. Notre Dieu, nous te prions pour que toutes les situations d'exil et d'éloignement qui conduisent à la colère ne restent pas des épreuves vaines, mais qu'elle donne du courage à ceux qui les subissent, afin de devenir plus forts en surmontant ces difficultés. Aussi, nous te prions pour les aumôniers des hôpitaux, des prisons, pour les pasteurs, pour toute femme et tout homme d'église, et pour tous ceux qui peuvent être à l'écoute et aider à soulager les souffrances du mal-être que tout exil peut entraîner. Dans le secret de nos cœurs, nous pouvons porter certaines personnes dans nos prières. Et nous rassemblons nos prières dans celles que Jésus nous a enseignées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entraîner en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Levez-vous pour recevoir la bénédiction. Dieu notre Père vous bénit et vous garde. Allez dans la paix qu'il vous donne.